Vous en avez assez des banderoles, je vous comprends. Même si elles ont mauvaise presse en ce moment, moi je refuse qu'on ne leur rende pas justice. Comme le faisait il n'y a pas si longtemps l'historien Philippe Artière en lui consacrant un livre aux banderoles, y compris celles que l'on voit dans les stades de foot, pour rappeler leur portée politique, leur pouvoir d'action. Après tout, une banderole, c'est de l'écrit projeté dans l'espace public. Si bien que dès qu'on la voit, le message existe. Et il existe, nous dit l'historien, c'est intéressant grâce aux médias qui depuis toujours, depuis l'invention de la banderole, en reprennent et en diffuse le contenu. Quel que soit le contexte, dans une manifestation ou dans un stade, le but de la banderole, c'est d'être rediffusé dans le journal, sur les réseaux, à la télé. Pour le meilleur, parfois, il faut le dire, hein, dans le cadre de luttes sociales ou politiques, d'actions pour acquérir des droits, de grandes avancées dont elles portent encore la trace, les banderoles. Vous en avez peut-être marre des banderoles, mais pas moi. Moi, je les garde en mémoire, celles des suffragettes, des militants d'ACT UP, celles de mai 68 ou des marches pour les droits civiques, celles d'hier, je dois l'avouer, plus que celles d'aujourd'hui. Disons que les banderoles que je déteste sont celles qui sont malades, celles qui trahissent la gloire des luttes passées, la grande histoire de ce que le plus souvent elles sont, des étendards de l'émancipation.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Le mot banderole pourrait-il avoir son entrée dans l'un de ces dictionnaires? Après tout, c'est de l'écrit. Et certains ont fait littérature avec des banderoles. Écrivains, éditeurs et poètes, son dictionnaire égoïste de la littérature française, paru il y a 14 ans déjà, est un de mes livres de chevet, figurez-vous. Et c'est de la littérature mondiale, c'est à la littérature mondiale pardon, qu'il se consacre désormais. Excusez du peu, ce nouveau dico est un florilège de digressions égoïstement savoureuses qui nous viennent donc du monde entier. Bonjour Charles Dantzig.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Que nous dit une banderole pour vous?
Une banderole, ça nous dit de l'écrit. On nous dit l'écrit n'existe plus, c'est la disparition de l'écrit, c'est faux, il y a de l'écrit partout. D'abord, les réseaux sociaux, est-ce que ça n'est pas de l'écrit? Les gens écrivent sur Twitter, les gens écrivent sur Facebook. Et la banderole est la forme peut-être la plus poétique de l'écrit, comme un vers en quelque sorte.
Poétique,
un vers,
toujours
oui. Pas toujours, les braves gens qui sont dans les stades récemment sont pas nécessairement poétiques. Mais d'ailleurs, plutôt que de déployer des slogans haineux, moi je leur suggérerais de déployer des phrases littéraires au moment opportun. Par exemple, si dans un stade de foot on joue contre Tunis, on déploie la première phrase de Salammbô de Flaubert, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, ça serait beau, non, dans les stades.
C'est intéressant de vous entendre parler d'homophobie, Charles Dantzig, parce que c'était le sujet d'un de vos livres, Histoire de l'amour et de la haine, qui avait pour toile de fond la mobilisation de la manif pour tous. À la veille d'une loi sur la bioéthique comportant notamment l'extension de la PMA aux couples de lesbiennes, vous la voyez revenir, la manif pour tous et ses slogans et ses banderoles parfois.
Mais oui, elle est pleinement là et décomplexée. Enfin, puisque on est là aussi un peu pour parler de littérature, je ne prendrai qu'un exemple parce qu'évidemment on a tous vu les banderoles récentes dans les stades de foot, mais un roman comme le dernier roman de Houellebecq qui sont 200 pages d'homophobie du début à la fin et je ne parle pas de la misogynie. Tout ça pour aboutir à une Légion d'honneur par le président de la République, c'est-à-dire qu'on ne prend même pas compte des injures faites à une partie de la communauté nationale.
Vous avez l'air en colère, Charles Dantzig.
Non, en colère, non, sévère, disons. La colère, j'aime pas ça parce que la colère, c'est eux. La colère, c'est eux. J'ai le souvenir au moment des manifestations contre le mariage, de la manifestation de la colère, justement, et qui réunissait des catholiques intégristes et des musulmans intégristes avec des charrettes de pauvres enfants manipulés. C'est eux, la colère. Moi, je suis très calme.
Pourquoi, à votre avis, l'homosexualité se trouve-t-elle encore aujourd'hui au centre du débat? Qu'est-ce que ça dit sur nous, sur notre époque?
Ça dit le retour de la haine et de la brutalité. Enfin, c'est une chose et l'instrumentalisation de ce qu'on appelle les mœurs, et qui est un mot que je n'aime pas, parle des politiciens. Je crois que les politiciens ont perdu la main sur beaucoup de choses. Ils n'ont plus la main sur l'économie, ils ont très peu la main sur le social, donc ils cherchent à manipuler des minorités et à les désigner à la vindicte pour éviter qu'on regarde leur incompétence.
La littérature mondiale, puisqu'il s'agit là du sujet de votre livre, se fait évidemment le miroir de l'homophobie et de l'homophobie latente souvent. Comment est-ce qu'elle s'exprime? Par le silence, par le refoulement, par le détour? Vous donnez notamment l'exemple d'un personnage créé par Melville, l'auteur de Moby Dick, qui s'appelle Billy Budd, Billy Budd le marin. Alors qui est donc ce Billy Budd passionnant, personnage de fiction, Charles Dantzig?
Merveilleux, c'est un jeune marin qui s'embarque sur un bateau et qui qui en fait est un ange. La façon dont Melville, qui est donc l'auteur de Moby Dick, vous l'avez dit, le raconte, il raconte sa beauté, il raconte surtout qu'il sait à peine marcher. C'est-à-dire qu'il crée déjà les conditions d'un personnage presque angélique, et ce jeune marin, uniquement à cause de sa beauté, de sa singularité par sa beauté, est haï par les autres, et en particulier par le capitaine du bateau, qui est à mon sens le premier personnage homophobe, sans que ça soit dit, qui apparaît dans la littérature, parce que ce capitaine se prend d'une passion de haine pour Billy Budd et provoque sa mort. C'est un très très beau livre.
Vous écrivez « L'homophobie se produisait sans même être connue comme une maladie qui n'a pas été découverte. Il est très difficile de décrire une chose qui n'a pas de nom. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à la nommer, l'homophobie ?»
On l'a nommée récemment, parce que jusque-là, ce qui avait des noms, c'était les homosexuels ou les gays qui avaient des noms, et trop de noms. Il y avait un excès de noms. Dans le roman dont vous parlez, j'avais établi une liste des noms injurieux et pas nécessairement injurieux qui s'appliquent à nous. L'excès de qualification parfois est très très néfaste. Enfin, vous imaginez tous ces mots-là. Et l'homophobie elle-même est arrivée assez récemment. Il y a une trentaine d'années, on s'est mis à parler de ça. Au moment où on a décidé de se singulariser, de dire qu'on ne se laisserait pas faire.
Et qu'est-ce que ça change de nommer Charles Dantzig? Quel acte symbolique est-ce que ça représente? C'est l'une des entrées de votre dictionnaire, nommer.
Eh ben, nommer, c'est sortir de l'innommable. C'est-à-dire, le sens du mot innommable est double, évidemment. Innommable, c'est qui ne peut être nommé. Innommable, en français, ça veut dire aussi abject. Et à partir du moment où on n'est pas nommé, on est dans la catégorie de l'abjection. Et à partir du moment où on nomme, et c'est ça qui exaspère les gens qui sont contre, c'est que tout d'un coup, on acquiert un nom, on dit « on est ça », et ça exaspère les autres qui préfèrent que l'objet de leur haine reste dans l'obscurité, parce que ça leur permet de haïr sans avoir l'air haineux.
Quel est selon vous le pouvoir d'un mot?
Le pouvoir d'un mot, à mon avis, aucun. C'est exactement comme un clou sorti d'une boîte à outils. Un clou n'a aucune valeur. Moi, j'ai pas la superstition du mot du tout. Je pense que le mot a une utilité et une fonction en fonction de qui l'utilise. Le même mot utilisé par deux écrivains différents. Enfin, prenons un mot tout simple qui est le mot amour. Vous imaginez le mot amour par Jean Racine. On imagine quelque chose de très exquis, de très raffiné. Et le mot amour dans la bouche de Louis-Ferdinand Céline. On n'a plus du tout envie d'aimer.
Vous écrivez la lettre M à l'entrée mot, qu'on fait trop confiance au mot.
Oui, je crois. Oui, je crois. C'est-à-dire, il y a cette, je crois qu'on est un écrivain et que la littérature n'est pas une question de mots. Le mot, c'est un peu trop succinct, c'est un peu trop slogan, c'est un peu trop publicitaire, c'est un peu trop rudimentaire. Je crois que la littérature, c'est une affaire de phrases plutôt que de mots, c'est-à-dire d'une combinaison de mots dont on essaie d'extraire la substance. Parce qu'un mot est défini et la définition, c'est une limite. Or, même un mot très simple peut avoir des nuances extrêmement importantes. Un mot comme table, encore une fois, prenons des écrivains différents. Table écrit par, mettons, Molière n'est pas la même table que écrit par Melville dont on parlait.
Ou Pérec. Mais Charles Dantzig, lorsqu'il s'agit de lutter contre la haine, les mots, ou plutôt les phrases, puisque vous parliez de phrases, est-ce que ça suffit toujours?
Non, je crois que au bout d'un moment, la littérature que je vénère ne suffit pas et que quand il s'agit de se défendre, un grand coup de poing dans la gueule vaut beaucoup mieux.
Vous en donnez plus souvent qu'à votre tour, vous?
Non, pas du tout.
Bon, vous me rassurez. Ce qui est passionnant quand même, c'est l'usage que vous en faites des mots et des phrases, particulièrement dans un livre comme ce Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Un usage qui prend souvent le parti, j'ai l'impression, de la légèreté, ce qui vous empêche pas d'évoquer des sujets très graves. Qu'est-ce que c'est la légèreté pour vous?
J'allais vous dire, mais c'est mon esprit de contradiction immédiat qui se met en place, que je ne suis pas contre la lourdeur, parce qu'il y a parfois des écrivains lourds qui sont très beaux. Joyce est un écrivain lourd et qui a de beaux passages, mais pour répondre plus sérieusement, la légèreté, c'est de prendre les choses graves sans peser et les choses légères avec sérieux. Et un écrivain qui fait ça admirablement bien, à mon avis, c'est Tolstoï. Guerre et paix, par exemple. Quand vous regardez Guerre et paix, c'est un objet qui fait plus de 1000 pages, qui est très lourd, on se dit, mon Dieu, quelle horreur, ça va être lourd, ça va être long, ça va être pesant. Et le génie de Tolstoï est par l'organisation de ses phrases et de ses chapitres qui sont très brefs et dans lesquels il donne des réponses sans attendre. Au contraire de Proust, parce que, vous savez, si je peux prendre deux minutes pour dire ça, Proust était un petit pervers.
Allons donc.
Si, Proust donne une indication à la page 100. Tout d'un coup, Oriane de Guermantes, mettons, se gratte l'aile du nez côté gauche. Et puis, ça a l'air de ne servir à rien. Puis, on y revient à la page 200 et à la page 300. Enfin, on a la réponse. Parce que Proust veut nous tenir et nous torturer avec des indices. Alors que Tolstoï, lui, est beaucoup plus léger. Voilà pourquoi Proust, que j'adore, est néanmoins un écrivain lourd. Tolstoï donne les réponses de ses indices au chapitre suivant. Ce qui fait qu'on passe d'un chapitre de Guerre et Paix à l'autre comme d'un îlot à l'autre, et au bout d'un moment on a traversé la Volga sans l'impression d'avoir fait un effort.
Ça peut être une arme aussi, la légèreté?
Ça peut être une arme, oui, parce que la légèreté est une forme de danse et par moments on n'est pas obligé de répondre à toutes les brutalités. Et donc, mettons que c'est un saut par-dessus la brutalité, par moments la légèreté, dans ce sens-là ça peut être très utile.
Qu'est-ce qui vous rend léger, vous, Charles Dantzig?
La lourdeur.
Ambiante.
Oui, c'est ça.
Celle qui, dans cette émission, a plutôt tendance à nous alourdir, justement, et je pèse mes mots, hein, c'est la culture et son actualité bourrative, indigeste et étouffe chrétien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 17 septembre? Et c'est parti pour la course aux Oscars. Hier, la commission du CNC, chargée de désigner le candidat qui représentera la France à l'Oscar du meilleur film étranger, a révélé sa shortlist. Résultat, trois films en phase finale. Les Misérables de Lajli, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui était notre invitée hier, et puis Proxima d'Alice Vinocourt. Les deux premiers, tous les deux repérés à Cannes, ont respectivement raflé le prix du jury et celui du scénario au Cocorico.
Un scandale! Un scandale!
Du rififi chez nos tout-petits, dès aujourd'hui la BNF inaugure Ne les laissez pas lire. Belle expo consacrée aux livres jeunesse qui ont créé la polémique depuis le début du XXe siècle. Une manière ludique de mettre en miroir la place mouvante de l'enfance dans la société. Et puis une liberté d'expression tout aussi fluctuante. Au programme, près de 120 publications controversées. Des célèbres pieds nickelés de l'entre-deux-guerres jusqu'au fameux Tous à poil qui avait hérissé ceux de Jean-François Copé en 2014. À voir jusqu'au 1er décembre, tout habillé évidemment.
I'm slightly shy.
Je suis intimidée et enchantée dans entendre toutes ces belles paroles sur moi.
Varda, une fois Varda Forever. Aujourd'hui, à Bruxelles, un hommage sera rendu à Agnès Varda, née dans le quartier d'Ixelles en 1928, où elle grandit jusqu'à l'âge de 12 ans. À 17h, lors d'une cérémonie en présence de sa fille, Rosalie, le cinéma Studio 5 sera officiellement rebaptisé du nom de la cinéaste iconique et pionnière féministe. La ville avait déjà donné son nom à une école de photos, proposée il y a quelques années une expo inspirée des tubercules et des souvenirs d'enfance d'Agnès Varda.
Cœur avec les doigts.
Et puis Capuçon monte le son pour Notre-Dame. Le célèbre violoniste inaugure aujourd'hui une tournée de 6 concerts au profit de la reconstruction de la cathédrale parisienne, victime, vous le savez, d'un incendie en avril dernier. Jusqu'au 2 octobre, le musicien investira 6 cathédrales dans toute la France, à commencer par celle de Chartres ce soir. Suivront celles de Lyon le 22, Reims le 24 ou encore Amiens le 29. Bueno bueno, super nono. Et l'écrivain Charles Dantzig, invité de Boomerang ce matin pour son dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, qui va du ah râle d'un Maori dont on lit les tatouages jusqu'au Z de Zorro, en passant par le portrait de Dorian Gray, King Kong, mais aussi Maladie, Rêve ou Scandale, ça se picore autant que ça se dévore. Quelle est votre entrée préférée, vous, tiens?
C'est votre bras gauche, Augustin. Les auditeurs ne le voient pas, mais moi je le vois, et Augustin Trapenard a son bras gauche posé sur la table, et sur son bras gauche on lit les mots encre, écrit et vie. C'est une belle trilogie.
Ouais.
Ouais, c'est une belle entrée. Bras gauche d'Augustin Trapenard.
Ouais, ça me fait plaisir. Écoutez, moi je vais vous lire un extrait de mon entrée préférée à moi, si vous le voulez bien, parce que ça va vous faire réagir. Je m'arrête à B. B comme bibliothèque. C'est incroyable la quantité d'êtres humains qui possèdent une bibliothèque, si j'en crois les magazines de décoration. Les familles françaises vivent dans des canapés vastes comme des paquebots, devant des bibliothèques grandes comme des gratte-ciel remplies de livres lisses comme des porcelaines. Oh monde exquis! Et puis on va chez les gens, et on n'y voit jamais de bibliothèque. On y cherche un simple livre, un seul, rien, un fétu. 100 pages du plus anodin récit, du plus bâclé souvenir. Petit, petit, où es-tu? On pousse les écrans, on déplace les consoles, pas le moindre volume, même primé, de ce que le plus grand public achète en novembre sur la foi du bandeau qui les entoure comme un poulet la belle rouge. Comment les gens sans bibliothèque peuvent-ils vivre? Et comment considèrent-ils les gens comme nous? Est-ce qu'il vous arrive, Charles Dantzig, d'abord, de vous considérer comme un auteur label rouge? C'est une vraie question.
Je suis plus un poulet de l'année, mais disons ça comme ça.
Et j'aimerais qu'on revienne quand même un instant sur l'une des questions que vous posez, à savoir comment les gens sans bibliothèque considèrent les gens comme nous. Qu'est-ce que vous entendez par les gens comme nous?
Bah, les gens qui lisent, quoi, les gens très étranges qui font cette occupation, qui ont cette occupation si mystérieuse, parce que, et pas tellement aimée. J'ai des petits effluves de paranoïa de temps en temps à moi. Je ne suis pas si sûr que les lecteurs et les écrivains soient si aimés. Pour une raison très particulière, c'est qu'on dit souvent la littérature, un livre est une ouverture sur le monde. Quelle drôle d'ouverture. Déjà, physiquement, qu'est-ce que c'est qu'un livre, sinon des œillères qu'on met de part et d'autre de ses yeux, on penche son nez sur un livre et on s'écarte du monde. Et c'est ça que les gens n'aiment pas. On s'écarte du monde parce qu'on lit des choses qui parfois nous le font mieux comprendre, mais on ne le fait pas avec tout le monde. Et c'est une la lecture et la littérature sont une séparation du monde qui, en réalité, ne sont pas très aimées.
Mais quel regard est-ce que vous portez-vous sur les gens qui ne lisent pas ?
Je trouve ça fascinant. Je ne sais pas. Enfin, je regarde ça au fond comme un poireau ou une patate dans un champ. Comment ces gens vivent-ils ? On dirait que les gens sont dans la vie comme dans un appartement de location. Ils sont là, ils vivent, ils partent, ils c'est fini, ils sont morts.
Mais Charles Dantzig, le livre, c'est aussi un capital social, non ? C'est-à-dire qu'on ne choisit pas toujours de pouvoir lire.
C'est vrai. C'est vrai, et moi je suis né dans une famille de bibliothèques, à bibliothèque plutôt, puisqu'il y avait des bibliothèques dans ma famille, et c'est une chance que tout le monde n'a pas, effectivement. Et c'est pour ça que les bibliothèques publiques c'est très important, c'est pour ça que l'apprentissage de la lecture c'est très important, parce que pour beaucoup de gens, un livre peut être un objet intimidant, et une librairie, un lieu intimidant aussi.
Vous avez tendance à le désacraliser, le livre, vous ?
Ah oui, oui, oui. Moi, je crois que la littérature, le livre et tout ça, c'est pas du domaine du sacré. Dès qu'on met du sacré quelque part, moi qui suis un peu voltairien, je m'emporte car il y a aucune raison de mettre du sacré parce que le sacré consiste à dire que la chose devient inattaquable et donc elle devient encore plus haïssable par les gens qui n'ont pas les moyens de la critiquer.
Ça veut dire que vous le cornez, le livre aussi, vous le tachez, vous le raturez?
Je le corne, je le rature. Je pense qu'on doit s'approprier le livre physiquement et qu'un bon lecteur est un lecteur qui écrit. Il écrit dans les marges, il dit oui, il dit non. On a des exemples de, par exemple, de livres de Voltaire qui étaient annotés. On a les mémoires de Rousseau annotées par Voltaire. On devrait publier les notes de Voltaire tellement c'est amusant. Il met des noms, imbéciles, enfin.
Qu'est-ce que c'est un livre en fin de compte ? Pour vous, vous écrivez, c'est une idée, un livre, une seule ?
Oui, je crois qu'un livre, et en particulier un roman, c'est une seule idée, c'est-à-dire ça doit pouvoir se synthétiser dans une idée unique qui a des floraisons diverses, mais par exemple, si on prend Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui est un merveilleux roman, eh bien, Mrs. Dalloway, on peut à peine le raconter, à part que je dirais que c'est l'histoire d'une dame qui sort de chez elle le matin à Londres pour aller acheter des fleurs pour une soirée qu'elle va donner le soir.
C'est la première phrase.
Voilà, et c'est tout ce qui se passe. Et c'est la résonance de la ville de Londres sur la personne de Mrs. Dalloway qui nous fait comprendre ce qu'elle éprouve. Et tout ça, je pense qu'on peut résumer le roman de Virginia Woolf dont je parle en disant que c'est le roman de la mélancolie. Voilà, une seule idée.
Avoir des livres, Charles Dantzig, les choisir, les posséder, les poser les uns à côté des autres sur des étagères, qu'est-ce que ça change à votre avis dans le rapport qu'on entretient à la littérature ? La bibliothèque en fin de compte.
Je pense qu'il faut des objets, que les livres en tant qu'objets, et d'ailleurs j'ai refusé que ce livre-ci soit vendu dématérialisé sur les tablettes, parce que je pense que le fait que le livre soit, et d'ailleurs toutes les formes d'art, moi je suis très embêté qu'il y ait plus de disques ou presque plus, eh bien qu'il y ait de la matière à opposer au pouvoir est une chose très importante. D'abord, un livre, ça se transporte. On a des tas d'exemples de gens qui sont partis pendant les guerres. Stendhal est parti pendant les guerres de Russie avec un volume de Chamfort, je crois qu'il avait mis dans sa poche. On part avec un livre, ça nous protège. On connaît l'histoire du Polonais qui connaissait Proust par cœur et qui l'a raconté dans les camp de concentration quand il était pris. C'est un contre-exemple, d'ailleurs, il n'avait pas de livre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les livres sont dématérialisés, ils sont un peu perdus. On ne sait pas les retrouver. C'est dans une espèce d'état gazeux. C'est loin. Alors que le livre qui est là, c'est un objet qu'on peut brandir et qui est une forme de banderole, lui aussi. C'est-à-dire, on peut dire, mon livre est là et je vous l'oppose.
Vous dites que la bibliothèque s'oppose à l'aléatoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste ?
Parce que justement, quand on va chercher des livres sur Internet, on ne sait pas bien ce qu'on va chercher. Ça passe comme ça, c'est du hasard, on trouve par hasard, et ça arrive avec les films en streaming, par exemple, sur les plateformes, c'est la même chose. On trouve les choses par hasard, sans bien savoir ce qu'on a, alors qu'une bibliothèque, il y a une logique, il y a un rangement, et on sait très bien ce qu'on va chercher, et c'est une forme de protection contre le monde, je pense.
Une bibliothèque, c'est aussi une œuvre ? en soi.
Une bibliothèque est une forme d'œuvre, oui, en effet, qui est... On pourrait d'ailleurs écrire la biographie, un roman avec l'histoire d'un homme uniquement par les variations de sa bibliothèque. En fonction des... Moi, par exemple, je pense qu'on pourrait raconter ma vie en fonction des crises au comité central de moi-même contre ma bibliothèque où je fais des purges. Moi, je suis très, très stalinien pour ma bibliothèque. Alors, tous les 5 ans...
C'est
je
bien la première fois que vous serez stalinien.
J'espère. Mais... On n'aime pas. C'est pour ça que la littérature est intéressante aussi, parce que c'est une expression des sentiments. Le savoir n'est rien. Le savoir, c'est très important, et en même temps, ce n'est rien. Je crois que si on sait seulement une chose, on ne sait rien. Il faut la sentir. Et la littérature est la seule forme d'écrit qui comporte cette part de sentiment. D'où les variations que nous pouvons avoir vis-à-vis d'un auteur qu'on aime pendant des années, puis qu'on aime moins, qu'on rejette, avec qui on revient. C'est une espèce de palpitation, la littérature. C'est pas froid comme la philosophie. C'est une forme très singulière de sentiment.
Quel réconfort vous a-t-elle apporté à vous, la littérature?
Aucun. Je n'aime pas l'idée que la littérature puisse être consolante, que Proust soit de l'aspirine, que Melville soit de l'optalidon.
Ou du Xanax.
Je crois pas que ça soit ça. C'est plus important que ça. Si la littérature était simplement une chose de soins et curative et qui fasse du bien, encore une fois, autant acheter l'aspirine. C'est pas du tout la même chose. C'est plus important et c'est plus grave que ça, je crois.
On va parler de littérature encore, Charles Danzig. Et puis on va parler de vous aussi encore, parce qu'il n'existe jamais, au fond, de meilleurs sujet que soi-même. On écoute Jacques Dutronc, et moi, en 1966. Vous êtes sur France Inter avec Charles Danzig, donc. Vous écoutez Boomerang.
700 millions de Chinois, et moi. Avec Marie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, Et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, Et moi. Qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre l'abbé Prévost et Jean-Baptiste Audibert, le programmateur musical de Boomerang qui aurait sacrifié ses bouclettes. Il a la lunette curieuse, l'œil forban, tendance farce et attrape dans le tiroir, la langue bien pendue mais non moins élégante. On l'imagine volontiers poudré de la tête aux pieds, coiffé d'une perruque et vêtu d'un costume brodé or, en train de tenir salon contre vents et marées, en pleine révolution, sachant que c'est peut-être lui qui l'aurait initié. La révolution, regardez-le avec son t-shirt à motif, avec un garçon tatoué dessus, l'écrivain Charles Danzig, invité de Boomerang ce matin pour son dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, dans lequel j'étais assez surpris, je dois vous dire, de trouver un article consacré à la ballade de John et Yoko, qui vous inspire la réflexion suivante, la propagande commerciale pour les chanteurs conduit à les faire traiter de poètes.
Oui, c'est une chose fascinante qui vient, je ne sais pas bien pourquoi, je n'oserais pas parler de l'inculture d'un certain milieu, mais il y a une notion de la hiérarchie dans la musique qui est très très étonnante, c'est-à-dire on nous parle de Gainsbourg comme si c'était Mallarmé, on nous parle voilà de
John Lennon parle de Gainsbourg comme si c'était Mallarmé, et elle a bien raison parfois.
Elle ferait mieux d'en parler comme de son mari, mettons, mais mais cette espèce de disproportion de ces gens très, d'ailleurs ça me gêne pas du tout. Il y a une entrée sur Pete Doherty dans mon livre que je compare à Jules Laforgue.
Bah alors.
Mais voilà, mais je ne vais pas employer les hyperboles délirantes des gens de la musique qui
sont... Ce que vous dites en creux, Charles Dantzig, c'est que le mot poète est devenu galvaudé, en fait, qu'il est devenu un argument marketing. Comment vous l'expliquez, ça?
Bah parce que c'est bien. Tout ce qui est bien est dénaturé. C'est la force des choses. Et plus, par exemple, c'est pour ça que je suis pour les imposteurs, moi. Parce que les imposteurs sont le signe que la chose à quoi ils s'appliquent a réussi. Et donc c'est très très bien que la poésie soit devenue un argument commercial, ça veut dire qu'elle s'est répandue et qu'elle a été admirée et qu'elle a plu. Plus il y a de truqueurs, plus il y a d'imposteurs et plus il y a d'impostures, plus ça veut dire que ça marche. Donc moi je suis très pour. Je suis pour les imitateurs, je suis pour les faux Vuitton de la littérature, je suis pour tout ça.
À l'entrée poète, vous écrivez que le poète c'est le scandaleux. Enfin, c'est comme ça que vous expliquez que les poètes soient peu mis en avant d'ailleurs.
Oui, parce que je crois que de toutes les formes de littérature, la poésie est la plus scandaleuse dans la mesure où elle dit les choses les plus osées que la prose ne peut pas dire, uniquement parce qu'elle est plus répandue. La poésie, c'est lu par 800 personnes les jours de grand beau temps. Eh ben, ces 800 personnes sont en général détachées de tout jugement moral, n'ont pas de valeur, enfin des gens très bien, quoi. Et on peut leur dire de manière très rapide et condensée des choses scandaleuses. Et d'ailleurs, la chose la plus scandaleuse est la condensation. Parce que les lecteurs de poésie sont attentifs et on peut leur faire des ellipses, ce qui est beaucoup plus compliqué pour le plus grand public qui aime pas trop les raccourcis. Encore que, on parlait de Virginia Woolf tout à l'heure et de Mrs. Dalloway, eh bien par exemple, il y a par moments des phrases de poésie pure dans ce roman. Et en particulier, je pense au moment où Mrs. Dalloway lève la tête et parle de la lune dufteuse. Pas beau, c'est la lune dufteuse.
Ça voudrait dire que la poésie se niche toujours dans le scandale, Charles Dantzig?
Elle ne le cherche pas, mais elle l'obtient malgré elle. Les poètes les plus scandaleux sont les poètes les plus moraux. Enfin, on a fait des procès à Baudelaire, qui était un homme qui se tenait tout à fait bien. Paul Verlaine, à part qu'il buvait un peu trop d'absinthe, a été très embêté aussi. Et alors qu'il ne faisait que des choses bien, mais ce qui scandalisait en eux, c'est la rapidité de leur écriture, leur condensation, et le fait qu'ils ont l'air élitistes. Ce qui est faux d'ailleurs. Mais comme vous savez, de tout temps, le mot élitiste désignait quelque chose de monstrueux.
Et la beauté dans tout ça, qu'est-ce que vous trouvez beau, vous ?
La beauté, je me méfie parce que par moments, j'ai l'impression que c'est une notion un peu fasciste, moi, la beauté. La beauté, ça veut dire que c'est très aléatoire, la beauté. Est-ce que c'est la beauté des statues grecques qui sont une idéalisation complète de l'homme et qui a été adorée par les nazis ?
Vous dites qu'elle est toujours bafouée, la beauté.
Tant mieux. Tant mieux, parce qu'elle a des avantages considérables. Moi, quand je vois quelqu'un de beau, quand je vois un garçon beau, par exemple, je suis comme un lapin stupéfait. Donc, il faut bafouer la...
Cette image est troublante, là, du coup, ce matin, 9h34. Lapin stupéfait.
Mes oreilles tremblent. Et je suis tout frémissant. Non, mais je veux dire qu'il faut...
Calmons-nous, Charles.
Je pense qu'il faut bafouer la beauté. Parce qu'elle a trop de pouvoir sur nous.
Y compris la beauté littéraire, la beauté de la littérature.
Non, ça pas touche.
Pas touche?
D'ailleurs, la littérature s'entend elle-même à casser le phénomène de beauté. Par exemple, si vous, il y a un poème d'Apollinaire qui est très beau, qui m'amuse beaucoup parce que au 10e ou 11e vers, tout d'un coup, il insère le vers suivant qui est « ça a l'air de rimer ». C'était très beau, il se fait à lui-même un croche-pied et il désigne par là qu'il ne s'en prend pas non plus trop au sérieux. De même, il y a une anecdote que je raconte dans ce livre-ci, sur Joyce. Joyce a eu Samuel Beckett pour secrétaire. Et il lui dictait Finnegan's Wake, son dernier roman. Et parce que Joyce était à peu près aveugle, il n'y voyait plus. Et puis, à un moment, un jour, comme ça, Beckett écrit sous la dictée et quelqu'un toque à la porte du bureau de Joyce qui dit « Entrez ». Beckett écrit entrée, le soir quand il relise le manuscrit, Joyce entend que Beckett a mis par inadvertance le mot entrée, il lui dit laisser. Et ben voilà, c'est aussi par ces petits croche-pieds que la littérature signifie qu'elle n'est pas possédée par l'esprit de sérieux, même si on est un génie. Surtout si on est un génie.
Sur la littérature que vous avez choisi de nous écrire ce matin, Charles Dantzig, un texte qui est une variation sur l'entrée étranger de votre dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Un texte où vous expliquez pourquoi, justement, vous avez préféré l'expression littérature mondiale à celle de littérature étrangère. Pardon. On vous écoute.
Il n'y a pas d'étrangers en littérature. Gabriel Garcia Marquez, Virginia Woolf, Emily Dickinson ne nous sont pas étrangers. Ils parlent une autre langue, c'est tout. Et les langues, c'est beaucoup moins important qu'on ne le dit. Au début du XVIIIe siècle, Fénelon a écrit « Qu'importe qu'un mot soit né dans notre pays ou qu'il vienne d'un pays étranger, la jalousie serait puérile quand il ne s'agit que de la manière de mouvoir ses lèvres et de frapper l'air. L'éloignement dans le temps ne rend pas plus étranger que la nationalité. Ceux qu'on qualifie d'étrangers de périodes anciennes peuvent être plus proches de nous que des compatriotes contemporains. A par exemple vécu dans la région aujourd'hui appelée Arabie Saoudite, au VIe siècle de notre ère, un poète anté-islamique qui se nommait Tarafa. Ce Tarafa a écrit des poèmes splendides dont nous pourrions réutiliser les métaphores aujourd'hui. Ses cuisses sont parfaites, on dirait le porche d'un château lisse et haut. Ses vers s'appliquent à une chamelle. Nous sommes plus proches, d'un arabe du VIe siècle chantant une chamelle que d'un mauvais écrivain de 2019 qui nous parlerait platement d'Internet. Je crois que les droits de l'homme ont été inventés la première fois qu'un livre d'un certain pays a été traduit dans un autre pays. Les lecteurs ont dû penser, tiens, un autrui, et qui est finalement notre semblable. Les langues, les paysages et les coutumes peuvent changer, les joies et les souffrances sont les mêmes. Il n'y a pas d'autrui, il y a des nous qui sont ailleurs. Dans ce domaine, la France, aussi nationaliste que tout autre pays, ne l'est pas en littérature et ne l'a jamais été. Le premier livre publié à Paris, le premier, à la fin du XVe siècle, n'a pas été le livre d'un Français en langue française, mais d'un Italien en latin. L'auteur, un humaniste, portait le nom de Barzizza. Soyons tous des Barzizza.
J'ai appris quelque chose. Soyons tous des Barzizza. Merci infiniment, Charles Dantzig, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que ce dictionnaire égoïste de la littérature mondiale est publié chez Grasset, que par la même occasion, j'invite tous les auditeurs à se replonger dans votre dictionnaire égoïste de la littérature française, ou encore dans Pourquoi lire, ou encore dans La guerre du cliché. Ce sont des lectures qui sont absolument lumineuses. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Michael Kiwanuka sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia.
Les médias sont là, Augustin. À demain.
À demain.